J'ai dit la semaine passée que contrairement à ce que pouvaient penser bon nombre de personnes, Dieu, même si on peut l'interpréter de différentes manières, Dieu s'est bien révélé, entre autres au travers de la création, de la Bible, de notre conscience et au travers du Christ lui-même. Et ce même si, encore une fois, cette révélation de sa personne peut être interprétée différemment suivant que l'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Ceci étant dit, si Dieu s'est révélé de manière spéciale au travers de son Fils Jésus, il y a une chose qui paraît évidente quand on lit l'Évangile, c'est que Dieu est un Dieu qui guérit, même si ce terme peut prêter parfois à confusion. De quoi est-ce qu'on peut déduire ça? Tout simplement en lisant l'Évangile et de voir le nombre de guérisons opérées par Jésus pendant son passage sur cette terre. Encore faut-il ne pas simplement prendre en compte ces guérisons, mais tenter d'en comprendre le sens et la portée pour les personnes guéries à l'époque et pour nous aujourd'hui, puisque, comme je le dis parfois d'une manière un peu humoristique, les statistiques de guérison physique à l'heure actuelle sont plutôt en défaveur de Dieu. On ne peut pas dire qu'il se passe ses journées à guérir tout le monde, de tout et en permanence. On va donc prendre trois courts textes que je tire de l'Évangile de Marc. Alors le premier se trouve dans le chapitre 1 de Marc. Directement, on attaque par une guérison d'un lépreux. Un lépreux vint à lui, donc à Jésus, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Deuxième texte, un peu plus loin, 7e chapitre de l'Évangile de Marc. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. Alors, la Décapole, pour information, c'est une région qui se situait à l'époque à l'est du territoire juif, à l'est du Jourdain, et qui avait été construite, c'était 10 villes qui avaient été construites par des Grecs qui avaient fui l'avancée des troupes d'Alexandre le Grand. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Si quelqu'un parmi vous a des problèmes d'audition, n'hésitez pas, je suis là. Et ma salive est à disposition aussi. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, c'est de l'araméen « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Okay. Et enfin, un dernier texte. Ils se rendirent à Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Dieu est un Dieu qui guérit. Apparemment. L'attitude qu'a Jésus envers ces trois hommes manifeste en fait qui est véritablement Dieu, quel genre de Dieu il est. La vision que les contemporains de Jésus avaient à l'époque, il faut bien fixer ça dans le contexte, était, nous le savons quand on lit l'Évangile, donc les responsables religieux juifs de l'époque qui détenaient la connaissance du Dieu d'Israël. Cette connaissance et cette vision qu'ils avaient de leur propre Dieu, même s'ils l'enseignaient aux autres, était distorsionnée, défigurée, à des années-lumière de ce que Dieu est véritablement. Et je pense que quand on est un peu objectif en tant que chrétien, pour ceux qui le sont, quand on lit cette, on peut avoir la même problématique relationnelle vis-à-vis de Dieu. Il faut rappeler aussi, ça peut paraître anecdotique, et je prends le premier texte relatif à notre lépreux, il faut quand même rappeler que être lépreux, aujourd'hui, c'est toujours pas drôle, mais ça se guérit. À l'époque, c'était une catastrophe d'être lépreux, parce qu'ils étaient bannis de toute vie sociale, parce qu'on pensait en plus, dans le contexte juif de l'époque, qu'ils portaient dans leur chair, sur leur corps, les stigmates de leurs péchés, de leurs erreurs, de leurs fautes, de leurs désobéissances. Et quant aux autres, les aveugles et les sourds, la vision juive des choses, de la maladie, était que si vous étiez malade de ce genre de maladie incurable, c'est que vous aviez forcément, vous ou vos parents, fait quelque chose d'abominable pour mériter cette maladie. Donc, dans leur tête à eux, c'était Dieu qui infligeait ces maladies par punition à ces personnes. Enfin, vous imaginez la vision que ces gens avaient de Dieu. Je fais ce qui est bien, Dieu me bénit et je suis en bonne santé, pour faire simple. Je me trompe de route, je me casse la figure, je fais l'andouille, ça nous arrive à tous, quel que soit le cadre où on peut faire l'andouille. je suis puni. Dieu me punit, m'écrabouille, me file la lèpre, me rend sourd ou aveugle. Ce que Jésus fait en touchant tous ces trois hommes, en devenant intime dans leur guérison, c'est affirmer justement que Dieu n'est pas un Dieu lointain et terrible, distribuant tantôt les beaux points, tantôt les mauvais. Jésus est venu nous parler d'un Dieu père, qui aime ses enfants, qui ne leur passe pas tout, hein, qui ne dit pas que c'est bien quand c'est mal, mais qui, encore une fois, n'inflige pas des souffrances pareilles à ses enfants. Un père, nous dit Jésus, et c'est ce qu'il veut montrer, tellement proche de nous qu'il peut même aller jusqu'à nous toucher et à nous guérir. Alors si j'ai choisi d'aborder ces trois guérisons d'une seule fois, c'est parce qu'elles démontrent, justement, d'après moi en tout cas, que notre Père agit spécifiquement avec chacun d'entre nous, suivant nos problèmes et nos maladies. Alors, vous avez remarqué que lui, il est éternellement ce qu'il est, il ne change pas. Nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons tous un idéal, c'est redevenir à l'image de Jésus, comme je le dis parfois autrement, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Essayons donc maintenant de voir ce que nous pouvons apprendre de Dieu à travers ces trois guérisons. La première chose, et j'ai déjà fait un petit peu allusion tout à l'heure, tu peux mettre la suivante, merci. Dieu n'est pas celui que nous croyons. Si on se base sur la rencontre de Jésus avec le lépreux, on ne peut pas dire que Jésus soit vraiment en phase avec ce que l'entourage de religieux de l'époque et la nation juive à l'époque pensaient de Dieu. Jamais il se serait imaginé que Dieu puisse s'approcher d'un lépreux, le toucher, le guérir, etc. Puisqu'à l'époque, je l'ai dit, il était banni de toute vie sociale et de toute vie spirituelle. C'était encore plus ou moins une théocratie Israël à l'époque. Autrement dit, quand vous étiez banni socialement à travers la lèpre, vous étiez aussi banni du temple, vous ne pouviez plus fréquenter personne, vous viviez en dehors des villes. Les lépreux étaient tolérés dans les villes s'ils s'annonçaient à l'avance et uniquement pour faire l'aumône. Il fallait bien qu'ils mangent. Le lépreux est donc rituellement impur. C'est le puni, le damné de l'époque. Et comme je viens de le dire, il n'y a pas de séparation entre la vie sociale et la vie religieuse. En fait, il est exclu de tous les domaines de la vie relationnelle à l'époque. Donc, toucher un lépreux pour un juif équivaut à s'exclure lui-même temporairement de toute vie sociale et religieuse, de toute vie tout court. On pensait que quelqu'un de rituellement impur pouvait rendre impur quelqu'un d'autre. C'est encore un principe qui a cours dans l'Église, et ça c'est dramatique. Il y a encore plein de gens qui pensent que quelqu'un qui ne suit pas, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, la voie de Dieu, la règle de Dieu, en d'autres termes qui fait l'andouille, que cette personne, si elle fréquente une Église, va contaminer l'Église, va rendre l'Église impure par sa présence. Moi je ne sais pas comment ces gens lisent l'Évangile, parce que ce que Jésus dit, c'est que tout ce que lui touche devient pur. Donc, quels que soient vos problèmes, en fait, il n'y a pas de problème dans le sens où l'Église est là pour représenter le Christ et pour aider dans la résolution des problèmes, si problème il y a. Il n'y a pas qu'en touchant l'épreuve, vous pouviez être rituellement impur à l'époque, selon la loi de Moïse. Vous touchez, excusez-moi mesdames, une femme réglée impure, les juifs hassidiques, vous voyez ceux qui ont les bigoudis, hein, vous voyez, avec le chapeau trois fois trop grand. Merci Seigneur, je ne suis pas juif hassidique parce que ces chapeaux, c'est une catastrophe. Mais quand leurs femmes, la plupart doivent être mariées, et quand leur femme a ses règles, le lit, les lits sont spéciaux. Non, c'est des lits spéciaux, donc il y a un lit, deux places. Dès qu'elle est réglée, il démonte le lit et il se sépare. Il ne peut pas toucher sa femme. C'est particulier, hein. Surtout pour la femme. Vous touchez un tombeau, passez dans le cimetière, vous trébuchez, vous mettez votre main sur le tombeau, impur, et hop, vous avez besoin de purification, à l'époque. Un cadavre est forcément le lépreux. Et j'en oublie certainement. Ça peut donc sembler être un détail, mais Jésus va en fait, à travers ces trois guérisons, détruire la vision que l'homme a de Dieu, et surtout la vision qu'il a de la soi-disant pureté. Pureté nécessaire pour s'approcher de Dieu. Et en fait, une pureté totalement extérieure. Vous n'êtes pas lépreux, vous n'avez pas touché votre femme quand elle est réglée, etc. Vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu, même si à l'intérieur vous êtes mangé par l'égoïsme, la haine, la colère, la vengeance. Du moment que vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, tout ira bien. Ça fait penser à des églises aussi, ça. On est pareil. Hein. Fonctionner dans ce cadre-là, ça s'appelle la religion, en fait. Hein. Fonctionner dans ce cadre-là, ça va obliger les gens qui sont dans ce cadre à faire semblant d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Vous allez les pousser à être tout simplement hypocrites. C'est pas bien. Ce qui est très surprenant, me semble-t-il, hein, dans ces guérisons, c'est que Jésus va chaque fois prendre les hommes à part. Il ne va pas les guérir devant une foule immense. Autrement dit, à travers ces guérisons, Jésus ne tente pas de convaincre la foule des gens bien pensants de l'époque. La preuve, c'est que le lépreux, par exemple, dès qu'il arrive, forcément, ça se vide un peu autour. Hein. Il y a un lépreux qui se prendrait avec sa petite crécelle sur la plage du Marseille, ici à Brindes. C'est clair qu'en 2 minutes chrono, tout le monde est parti. Hein. Mais Jésus y reste. Le but de cet écartement de Jésus avec le lépreux, c'est parce qu'il veut transmettre quelque chose à ce lépreux. Et ce qu'il veut transmettre, en le touchant, il aurait pu le guérir sans le toucher. D'ailleurs, c'est intéressant. Jésus aurait pu passer, guéri. Non, ça fait trop tard. guéri. Enfin, vous avez compris le principe. Hein, voilà. Il aurait pu, il fait pas. Il touche le gars. Quelqu'un qui n'a plus été touché depuis des années. Ah, forcément, un lépreux, on ne risquait pas de le toucher. Ce que Jésus veut faire passer, c'est que Dieu ne considère rien comme impur. Qu'aucun être n'est trop malade, trop affreux, trop pécheur, trop à côté de ses pompes pour que le Christ ne puisse le toucher et le guérir, le ramener à la vie. Personne n'est jamais trop loin. Jamais. À nos yeux, parfois, on se dit, oh, lui, c'est foutu. Non, c'est jamais foutu. Parfois, c'est compliqué. Et c'est jamais foutu. Donc, ce qui me paraît intéressant pour nous, c'est notre regard que Jésus interroge, notre regard sur l'autre. Parce que nous sommes entourés de gens aussi, vous aurez remarqué. Hein. Autrement dit, potentiellement, nous avons tous nos lépreux. Même si ils n'ont pas les stigmates dans leur chair, mais on a nos lépreux, des êtres que nous ne toucherions pas, que nous ne fréquenterions pour rien au monde, ou alors si on uniquement contraint et forcé, des gens qu'on dégage, quoi. Allez hop, qu'on évite. Donc c'est nous, à travers notre regard, qui rendons, pour des raisons probablement différentes de l'époque, et nous sommes bien d'accord, nous rendons aussi des gens terribles, impurs, infréquentables, incurables. Je pense surtout, la raison en est que la maladie, la souffrance, la perversion parfois de l'autre nous fait peur parce qu'elle nous rappelle la nôtre, potentielle. Ça, avec le temps et l'expérience, j'ai quand même remarqué ça. C'est que quand vous approchez de quelqu'un qui souffre à quelques niveaux de son être, il vous renvoie votre propre souffrance potentielle. Ou alors on est idiot. Hein. Quand vous accompagnez quelqu'un qui est à côté de ses pompes dans sa vie, qui a des gros problèmes, il ne faut jamais vous dire « moi, ça n'arrivera jamais ». Ben si, parce que vous êtes un être humain comme lui, ça peut très bien vous arriver. Hein. Jésus a dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Hein. Dès qu'on se dit « moi, je suis au-dessus du commun des mortels », c'est le début de la fin. On effectue parfois, sans même s'en rendre compte, des classements entre les gens fréquentables et les autres, des classifications entre purs et impurs. Et c'est assez dramatique, puisque nous sommes, en tant que chrétiens, habités par le Saint-Esprit, nous sommes habités par l'Esprit du Christ, autrement dit, nous ne devrions jamais avoir ce genre d'attitude envers qui que ce soit. Il y a quelques semaines, j'avais fait allusion à Jonas, vous voyez, le prophète dans l'Ancien Testament, le gars qui a été mangé par une baleine. La pauvre bête, quoi. Quel est le sens de cette histoire? Je vais pas revenir dans les détails. Hein. Mais Jonas, il ne voulait pas aller annoncer la parole de Dieu là où Dieu l'envoyait, parce que lui, il estimait que les gars, ces gens ne méritaient pas, en fait, d'être aimés, sauvés par Dieu. Non, moi, je veux bien aller chez les gens que moi, j'aime bien, que moi, j'estime fréquentable, mais ceux qui ne le sont pas, moi, j'ai aucune envie de leur parler de Dieu et du message d'amour qu'il a. C'est hors de question. Je connais la fin de l'histoire. En fait, en gros, la grâce de Dieu, elle est pour moi, youpi, merci, et le jugement est pour les autres. Je pense qu'il faut parfois passer soi-même par la souffrance pour que notre égoïsme tombe et que nous prenions conscience que notre univers n'est pas supposé se limiter à notre petite personne et à ce que nous considérons comme important. Mes amis, je pense que, pour ceux qui fréquentent l'Église, pas spécialement celle-ci, hein, l'Église avec un E majuscule dans son ensemble, pour ceux qui fréquentent l'Église depuis quelques années, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que l'Église est malade. Elle souffre de différents maux. Il y a l'analyse, malade, elle l'a toujours été. C'est un peu normal, elle est constituée d'hommes et de femmes imparfaits. Mais en fait, il faut réfléchir à ce que nous disons quand nous disons l'Église est malade. Quand on dit, si je dis l'Église est malade, je fais partie de cette Église. Donc je suis en partie la maladie dont souffre l'Église. On a une capacité à dégager sa responsabilité par rapport à ce qu'on entend, absolument extraordinaire. Quand vous avez un pasteur qui dit l'Église manque d'amour, tous les gens disent oui, oui, oui. Oui, oui. Mais ils vont jamais se dire, ah bah oui, moi je manque d'amour. Non, non, non. Le gars, oui, il a raison, le gars à gauche, qu'est-ce qui manque d'amour? Le gars à droite, derrière, devant. Mais moi, je me sens jamais concerné. Et pourtant. Pour que l'Église aille mieux, nous devrions donc tous apprendre à être honnêtes et à prendre conscience de nos propres maladies. Parce que l'Église, c'est chacun d'entre nous. Et que bien souvent, et c'est le sens de cette parole de Jésus, quand je porte un jugement sur quelqu'un d'autre, quant à la paille, vous rappelez de cette fameuse phrase, hein, avant de t'occuper de la paille dans l'œil de ton frère, occupe-toi de la poutre qui est dans le tien. C'est très imagé, hein, mais c'est imagé avec une poutre dans l'œil. Eh bien, beaucoup d'entre nous se promènent avec une poutre dans l'œil. C'est très comique à voir. Hein. Ça fait surtout très mal. Donc, il faut comprendre ça, que nous sommes potentiellement tous malades, déjà à la base, parce que nous avons une mauvaise vision de Dieu et de ce qu'il est. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Jean. Dieu est amour. Il y a un restrictif dans le grec. Dieu n'est qu'amour. Il n'est que ça. D'accord? Donc, un Dieu amour, balancer les gens qui ne conviennent pas, ça ne correspond pas véritablement. Deuxième point que nous révèlent ces guérisons de Jésus. Dieu est un Dieu personnel. Alors, je sais bien que c'est un concept difficile. Pour les Grecs, pour beaucoup de gens, même les agnostiques, si Dieu existe, d'accord, hein, mais il a quitté la place. Autrement dit, il a créé le basse-fringue ici, il a dit, les gars, moi je vais vous tout donner, maintenant vous débrouillez. C'est ce qu'on appelle les déistes. Il y en a beaucoup encore, hein, c'est un héritage de la philosophie grecque. Hein. Les agnostiques aujourd'hui, ils se rattachent à cette philosophie-là, même s'ils ne s'en rendent pas tous compte. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais bon, moi c'est inconnaissable, voilà. Et s'il y a un Dieu, moi, il ne peut pas forcément, s'il est Dieu... Qu'est-ce qu'il a à faire de moi? Le seul problème, c'est ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu personnel. Il s'occupe de moi tous les jours. Il y a des jours où je préférerais qu'il m'oublie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors peut-être qu'en tant que chrétien, on dit, ouais, ça je sais, quoi. Oui. Alors je pense que c'est très facile d'affirmer ça quand on est dans une étude biblique. Quant à dire qu'on vit nos vies à partir de cette source-là, de cette réalité-là, je pense qu'il y a une marge. Les trois guérisons opérées par Jésus ici sont tellement intimes dans leur mécanisme que je pense qu'on peut franchement affirmer que Dieu s'occupe de chacun d'entre nous personnellement. On peut déjà voir, me semble-t-il, hein, toute la douceur, mais aussi la pédagogie de Jésus à travers ces guérisons. On ne doit pas s'étonner de ces gestes dont nous allons parler, mais s'y arrêter, car le contact physique avec le malade est quand même ici très précis, et il y a une raison objective pour laquelle c'est aussi détaillé dans l'évangile de Marc. Quand on prend le sourd et l'aveugle, ces deux hommes sont privés d'une partie au moins des moyens ordinaires de la relation avec le monde extérieur. Ça ne vous aura pas échappé, un aveugle ne voit pas. En termes de relation, ça complique. Quoique parfois, il vaut mieux pas voir quand même, hein, soit, c'est un autre problème. Et un sourd et muet, il ne peut pas parler, il ne peut pas entendre. Donc, il a des freins énormes en termes de communication et de relation à l'autre. Jésus a bien compris ça. Dans chaque cas, il suffit de se laisser toucher pour discerner que les gestes faits par Jésus sont par exemple tout à fait indiqués pour un sourd. Il lui met les doigts dans les oreilles, il lui touche la langue. Pourquoi? Il n'entend pas, il ne parle pas. Jésus ne peut pas lui dire « Je vais te guérir. Dieu veut te guérir. » Il ne va pas l'entendre, ça. Il est obligé donc de signaler physiquement ce qu'il va faire. Je vais te rendre l'audition, je vais te rendre la parole. Et puis il y a un signe d'invocation, le texte le dit, et Jésus regarde vers le ciel. Et c'est Dieu qui va opérer ça. Pour que la personne qui va être guérie ne confonde pas l'acte posé par Jésus avec l'acte d'un magicien, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de cinglés à l'époque, et ça continue aujourd'hui, hein, qui passaient dans les villes, qui se faisaient payer pour guérir les gens. Ça ne fonctionnait pas souvent. Donc c'était important pour ce sourd de se faire toucher à l'endroit de sa faiblesse et de sa maladie pour savoir effectivement que quelque chose du type de guérison allait s'opérer. Même chose pour l'aveugle. Il va toucher ses yeux. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans les deux cas, il y a un petit chemin quand même, avant que la guérison ne s'opère. Dans le cas de l'aveugle et du sourd, Jésus les prend par la main, comme pour leur dire « Tu n'es pas seul, je suis là, c'est moi qui t'ai pris la main, et c'est moi qui vais te conduire vers celui qui veut te guérir, à savoir mon Père, Dieu. » Il est à relever également que cet homme, le sourd, ne se débat pas lorsque Jésus l'emmène. Il pourrait avoir peur, hein, quelque part. Et moi, ça me fait réfléchir, petite parenthèse, quand j'ai relu le texte, je me suis dit, souvent dans notre relation avec Dieu, on fuit ce que Dieu veut faire dans nos vies. On fuit le rétablissement qu'il veut opérer. On fuit le fait qu'il veut nous aider à régler nos problèmes. On fuit souvent le chemin qu'il place devant nous pour régler ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Enfin, comme l'a dit une fois quelqu'un, Dieu emploie toujours le chemin le plus difficile. Rappelez, j'ai dit ça, hein. Il y a quelques années, j'ai passé par la pire période de ma vie. J'étais complètement perdu. Je savais très bien que c'est très bien le chemin, mais j'avais aucune envie de le prendre parce qu'il me semblait vraiment trop douloureux et trop difficile. C'est là qu'un gars qui n'avait aucune référence à Dieu m'a dit, dans un lieu de retraite, il m'a dit « Tu es pasteur, moi je ne comprends même pas le début du centième de ce que tu es en train de vivre, mais il y a un truc que je sais, le chemin que Dieu te dit de prendre, c'est le plus compliqué à prendre pour toi. » Allez, youpi, hein. Mais c'était vrai. Personne n'a jamais dit que guérir ne faisait pas mal, hein. Donc parfois, le plus grand frein à nos guérisons intérieures, là je parle d'un niveau intérieur, hein, le plus grand frein à notre guérison intérieure, c'est nous-mêmes. On s'attache à nos béquilles, hein, souvent. Je t'assure que c'est vrai, en tout cas pour moi. Troisième élément. Il y en a cinq, hein, donc ça va aller. Dieu est un Dieu qui met en marche. Alors Dieu, il déteste, mais il déteste l'immobilisme. Hein. Il envoie tout le monde promener, en fait. On promenait. Vous voyez, Abraham, tout le monde connaît Abraham, hein, de ne plus que de nom. Il vivait, j'allais mettre une carte, mais il n'y a pas de carte au mur. Hein. Il vivait en Mésopotamie, donc l'Irak actuel. Et le jour le dit, allez, tu prends tout ton barda et tu vas te promener, je t'envoie ailleurs. Et hop, il se casse pour des milliers de kilomètres, à pied, ou à Dodane, ou peut-être de chameau, à la limite, à l'époque. Dieu est un Dieu de transhumance, il aime les déplacements. Il déteste le status quo. Dans la pensée juive, spirituellement parlant, vous arrêtez de grandir à partir du moment où vous vous arrêtez. C'est le psaume 1. Ne t'arrête pas sur le chemin des méchants, ne t'assieds pas, vous voyez ? Dès qu'on s'arrête, le stade après, c'est de s'asseoir. Spirituellement, dans la pensée biblique de l'Ancien Testament, s'arrêter ou s'asseoir, c'est arrêter de grandir, arrêter de se déplacer, arrêter de croître. Si je dis ça par rapport à ces trois malades, c'est qu'ils s'étaient probablement, même certainement, habitués à leur maladie. Ils ne faisaient qu'un avec elle. Toute leur vie sociale tournait, on peut comprendre pourquoi, hein, toute leur vie sociale et leur rapport au monde tournait autour de cette maladie. Ils avaient peut-être même quelque part oublié qu'elle existait. Tout comme nous oublions parfois nos dysfonctionnements, nos défauts, nos carences, nos maladies. Heureusement que nous sommes pour la plupart d'entre nous mariés, que ma femme, par exemple, quand j'oublie mes défauts, me les rappelle très très vite. Et ma fille en rajoute une couche, donc voilà. J'ai deux femmes à la maison, il faut prier pour moi, c'est terrible. Hein, quand même. Deux femmes à la maison, c'est terrible. Hein. Je suis en sous-effectif, moi. Le problème de ces hommes est probablement en grande partie qu'ils ont perdu toute conscience, qu'ils ont besoin de changer, besoin d'être guéris. Et c'est là que Jésus intervient. C'est là qu'il se place sur notre route. Dieu est le seul médecin que je connaisse qui se rend chez le malade pour lui dire « tu as besoin d'être soigné ». Mais aucun, votre médecin traitant ne va pas venir sonner à votre porte pour vous dire « tu as besoin de faire une radio, tu as besoin de soigner ta bronchite hein. ». Vous devez vous déplacer. Eh bien, Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu est le seul médecin au monde qui se déplace vers vous dans votre vie pour vous dire « ça, il faut m'arranger, ça ne va pas du tout hein. ». Tu dois guérir de ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il adapte le traitement. Il maîtrise toutes les maladies, tous les dysfonctionnements, mais il adapte le traitement à celui ou celle que nous sommes. Si vous avez mal au genou, il ne va pas vous coller une... Comment ça s'appelle encore ? Une. Il pourrait une genouillère. Moi, je connaissais un médecin militaire, il faut que tu parles de ça. Allez, petite parenthèse. J'ai un ami militaire qui s'était fait très mal au genou. De temps en temps, il se déplace d'une chaise ou d'un comptoir à l'autre à l'armée. On peut se faire mal au genou. Hein. Vous ne vous rendez pas compte. Hein. La vie d'un militaire, on va au bar sous offre, puis au bar office. C'est difficile. Hein. Pardon, papa. Hein. C'est d'expérience, je parle. Hein. Mon père était militaire. Hein. Voilà. Donc, ce gars se fait vraiment mal au genou. Il va voir le médecin militaire, véridique, hein, et le mec lui donne du paracétamol. Donc, c'est un antidouleur, mais c'est surtout un truc pour la fièvre, quoi. Et mon ami a dit, c'était un colonel le médecin, mon ami a dit, mon colonel, est-ce que vous auriez du sparadrap ? Certainement, mon ami, il lui donne du sparadrap. Il a sorti une des pilules, il a pris, collé la pilule sur le sparadrap et il se l'est mis sur le genou. Deux semaines, rapport, deux semaines d'arrêt de chambre. Dieu adapte son action dans nos vies à celui ou celle que nous sommes. Les malades ici sont appelés par Jésus à reconnaître que Dieu est à l'œuvre au cœur de leur vie et au cœur de leurs problèmes, et ce même si tout n'est pas forcément encore parfait. Tout simplement parce que ça s'appelle la grâce. Il ne peut pas imposer ce qu'il désire dans nos vies d'un seul coup pour la simple raison que ça nous détruirait. Il faut que ce chemin, nous y participions, nous ayons le désir de participer à ce chemin de guérison. Avec lui. S'il l'impose, ça ne fonctionne pas. Ça fait un peu redondance ou écho à ce que je disais il y a deux semaines. C'est arrivé que Dieu apparaisse, entre guillemets, en tout cas à travers certains textes bibliques, face à des hommes comme vous et moi. Le résultat est rarement probant parce que c'est trop. Donc il est obligé de s'adapter, par amour pour nous, à ce que nous sommes. Quatrième point. J'arrive à la fin. Dieu est le seul qui puisse guérir. Alors ça, normalement, ça devrait être évident. Les médecins soignent. Merci Seigneur hein, pour les médecins. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Tiens, certains, je suis quand même un peu sceptique. Quoi. Il y en a certains, ce sont des armes de destruction massive. Quoi, hein. Mais pour la majorité, merci pour la médecine. Mais les médecins, d'ici-bas, ils ne font que soigner les maux. Ils ne les guérissent pas. Hein. Peut-vous guérir d'une bronchite ? Quelle chance ! Mais si ça tombe, un an plus tard, vous allez vous refaire une bronchite. Hein ? C'est important d'être soigné. Dieu est le seul qui est capable de guérir en profondeur. C'est d'autant plus facile d'affirmer ça que si on se focalise sur les trois cas de guérison que je viens d'énoncer dans Marc. Hein, puisque dans les trois cas de figure, pour l'époque en tout cas, ces trois maladies étaient incurables. La lèpre, incurable. Cécité incurable, souris muet, incurable. Ce qui tente à prouver qu'il faut sans doute aller chercher plus profond le sens de ces guérisons et dépasser le côté purement physique de la guérison. Pour le dire autrement, dans la pensée de Dieu, la guérison, c'est pas vraiment ce qu'il y a physique, hein, j'entends, c'est pas vraiment ce qu'il y a prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est la guérison intérieure, c'est la guérison de l'âme. Ce qui permet aussi de comprendre que si à l'époque il y avait énormément de guérisons effectuées par Jésus, c'est simplement que dans l'annonce messianique de sa venue au premier siècle de notre ère, cette venue était annoncée avec des miracles et des guérisons parce que les Juifs devaient absolument matcher, réunir la messianité de leur Messie et la capacité qu'il avait de guérir des maladies, etc. Je vais prendre un texte qui va justement bien expliquer ça, me semble-t-il, que je prends dans la lettre aux Hébreux. Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, il parle là des apôtres, hein, par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Il y a un temps apostolique où les guérisons étaient courantes. Hein, vous prenez la Bible, le livre des Actes, il y a certains passages, un moment où Paul passe, c'est simple, il y a un malade et il y a l'ombre de son manteau qui couvre le malade, et parce que cette ombre passe sur lui, le gars est guéri. Moi, j'ai fait ça dans les rues de Braine-l'Alleud pendant je ne sais pas combien de temps. Oui, j'ai chopé la craie parce que c'était en hiver, j'ouvrais mon manteau et pour ça ne marche pas du tout. Alors, je ne veux pas dire par là que Dieu n'opère plus de guérison physique aujourd'hui, puisque je sais que beaucoup parmi vous, depuis 4 mois, prient pour que Dieu me guérisse de mon cancer. Mais en attendant, il y a un foisonnement de guérison à cette époque. Aujourd'hui, quand Dieu guérit physiquement quelqu'un, c'est dans une dynamique de grâce personnelle, en rapport avec un être bien spécifique, une histoire bien spécifique. Je rappelle, pour la précision, mais vous en doutiez, les 3 cocos que Jésus a guéris dans l'évangile, ils sont morts. Hein. D'accord ? Non, mais. J'ai une fois discuté avec un pasteur pentecôtiste, il dit « Oui, mais il a un cancer, il doit sortir de son lit et sauter en l'air et louer Dieu. » Mais j'étais les chrétiens, ça meurt aussi. Il était terrifié, le gars. Je lui ai annoncé qu'il était mortel. Il faut bien mourir de quelque chose, quoi. Donc Dieu ne va pas passer sa vie à guérir toutes les maladies physiques ici-bas. J'y viendrai. Il y a quelque temps, j'ai passé en revue, parce que j'ai un ami qui voulait mon avis sur un livre qu'il avait lu et qui parlait des guérisons. Alors moi, il sait que... Moi, je suis plutôt théologien. Donc moi, voilà... Le grand guignol, j'ai les stades où on dit aux gens, jetez vos lunettes, Dieu va vous rendre la vue, une vue parfaite. Ceux qui sont venus en chaise roulante, ça existe, hein, jetez vos chaises roulantes, vous n'en avez plus besoin. Ils sont bien embêtés, hein, les gens, quand ils recherchent leur paire de lunettes après, parce que ça n'a pas fonctionné. Hein. Mais là, on dit que c'est le manque de foi des gens. C'est pour ça qu'ils ne sont pas guéris, parce qu'ils ont manqué de foi. Moi, j'ai passé en revue tous les textes de guérison des 4 évangiles. Vous vous rendez compte de travail ? Hein, comme je travaille pour vous, les petits gars. Ça m'a pris des heures, des plombes, ça m'a pris. C'était très intéressant. Parce que j'en ai quand même retiré une chose, qui n'apparaît peut-être pas à la première lecture. D'abord, et c'est très important, c'est toujours, dans tous les cas de figure, l'autorité que possède Jésus sur toute chose et sa foi en Dieu son Père, qui est à l'origine de la guérison. Même... quand la foi de la personne guérie est bel et bien présente aussi. Et dans ce cas-là, Jésus dit, c'est ta foi super, quoi. Ta confiance que tu as en Dieu, magnifique. Il rend témoignage souvent, quand c'est le cas, à la foi de la personne. Mais le grec est clair, c'est l'action et l'autorité du Christ qui produit la guérison. Donc la bonne nouvelle, et d'ailleurs c'est le cas dans l'Évangile, parfois la personne qui est guérie, elle n'est même pas au courant que Jésus est là pour elle. Parce que la personne, Jésus est venu accompagné d'une autre personne. « Mon fils est malade, est-ce que tu veux venir voir mon fils ?» Et le fils, il est à moitié mort, ou voilà, et Jésus guérit. La foi du fils, elle n'est pas en cause. Hein. Comprenez ? Si je dis ça, c'est pour arrêter de culpabiliser. Hein. C'est-à-dire, ah, j'ai prié pour que machin, notre ami Walter, le missionnaire, la chaise roulante aujourd'hui, hein. Dans une chaise roulante, ça fait 4 mois qu'on prie. Et c'est bien, hein. Il ne sait toujours pas faire pipi tout seul. Hein. Il est tétraplégique. Donc vous imaginez si on dit, c'est parce qu'il manque de foi qu'il ne guérit pas. Non seulement il est toujours paralysé, mais en plus il culpabilise. Hein. Et on appelle ça aider les gens, paraît-il. Pour les cas incurables, dans certains cas, c'est clair que Dieu guérit. Mais c'est toujours sous l'autorité du Christ. Donc, ça signifie que la guérison n'est jamais à mettre en rapport avec la foi de la personne à guérir. Il y a des non-croyants qui ont été guéris miraculeusement, qui n'avaient pas la foi, qui ne sont pas spécialement venus au Christ après, hein. Ce qu'il faut comprendre, et je ferai deux messages au moins là-dessus, comme ça vous savez, parce que je passe tout le monde patauge à ce niveau-là, et je me dis, ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Je dois leur expliquer, enfin essayer en tout cas. Ce que je veux dire, Dieu veut toujours nous guérir. Ça, il faut retenir. Mais nous vivons dans une dimension, tant que nous sommes ici, tant que Jésus n'est pas revenu, nous sommes dans une dimension de déjà là. Le royaume de Dieu, il est déjà là, mais il n'est pas encore là. C'est fait clair. Au moins, faites semblant d'avoir compris ce que je viens de dire. Hein, Nicolas? Ah, c'est limpide! Voilà. Donc, il est déjà là, donc nous pouvons et nous devons prier pour la guérison, puisque celle-ci est un signe du royaume, et le royaume, par la venue du Christ, est venu en ce monde, et l'Église est une projection annoncée du royaume qui vient. Mais il viendra. Mais il n'est pas encore pleinement là. Vous aurez remarqué que ce n'est pas encore Jésus qui règne. Hein. Tu peux. Si Jésus règne, Trump, il n'est pas là, quoi. Bolsonaro non plus, enfin tous les soit. Donc le royaume n'est pas encore totalement présent. Et définitivement présent. Dans, justement dans toute sa puissance de guérison et de destruction de notre péché, de la maladie. Ce qui signifie que tous, ici-bas, avant le retour du royaume, l'instauration du royaume, tous ne guériront pas. Pourquoi ? Parce que ce corps, même s'il est magnifique parfois, hein, ce corps se détruit. Il est marqué par tout ce qui ne fonctionne pas dans ce monde. Il est marqué, tout à l'heure le mien, il est marqué par la maladie, voilà, par les excès, par tout ce que vous voulez. Et il est voué, Bible en main, à la destruction, et vous savez bien que quand Jésus revient, on recevra un corps glorifié. Pareil aussi après la résurrection. On va être lumineux, surtout moi. Lumineux. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être pas évident à première lecture, dans ces trois guérisons, je reviens à ça. Donc rappelez-vous, hein, déjà pas encore, mais je ferai des messages là-dessus. On se trompe, je pense qu'on se tromperait si on pensait que dans ces trois guérisons, il n'est question que de guérison physique. Ah, il y a une guérison physique, hein, ça c'est clair, qui s'opère, d'après les textes. Mais je pense que ce qu'opère Jésus là est bien plus profond qu'une simple guérison. J'ai envie de dire que la guérison physique semble manifester une guérison plus profonde de ces hommes. C'est d'ailleurs pour ça, le grec ancien est une langue de fou en fait. Hein. Nos langues modernes n'arrivent pas au début du début de la godasse du grec ancien et encore moins de l'hébreu ancien. Mais c'est quand même très intéressant que pour un mot en français, il y a 20 mots en grec, hein, en gros. Mais c'est quand même comique que pour le verbe guérir et sauver en grec, c'est le même verbe. Il n'y en a qu'un pour les deux. Donc quand Jésus dit « va, ta foi t'a sauvé », on pourrait traduire « va, ta foi t'a guéri ». T'as guéri ou t'as sauvé. Donc je pense que l'ambivalence de ce verbe a un sens profond dans la guérison. C'est que cette guérison est bien plus profonde que simplement une guérison d'apparence purement et essentiellement physique. Je rappelle donc que Jésus est venu prioritairement pour sauver notre âme, pas notre corps. Parce que celui-ci est exposé à toutes les conséquences de la vie dans ce monde déchu, et entre autres la maladie. Dernier point, je termine. Dieu guérit dans l'intimité. Alors, je faisais référence tout à l'heure à ces grands messes charismatiques dans des stades de foot en Amérique du Sud, entre au Brésil pour l'instant, c'est la folie. Hein, où il y a des milliers de personnes, là, et un télévangéliste, et venez jeter vos lunettes, jeter, voilà, approche-toi, tu vas marcher, sauter, enfin voilà. La grande majorité, il y a des exceptions à ça, la grande majorité des guérisons de Jésus dans l'Évangile se font dans l'intimité. Il y a un cas, je pense que c'est la fille de Jairus, donc une gamine qui est même morte. Et le texte, c'est très intéressant, précise, ce n'est pas un des autres cas, mais c'est un autre cas. Le texte précise qu'il y a des pleureuses, des femmes qui pleurent. La gamine est morte. Ce sont des pleureuses professionnelles qu'on engageait pour pleurer. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Quel beau métier. Hein. On les payait pour venir pleurer aux enterrements. Et ceux que Jésus évacue avant de manifester la guérison de cette gamine, enfin de la résurrection de cette gamine, c'est de dégager les pleureuses. Il fait sortir les pleureuses. Pourquoi ? Bonne question. Un, parce que c'est du cirque. Mais deux, plus profondément, parce que pourquoi les gens pleurent à un enterrement ? Parce que la mort est là. Quand vous êtes habité par la mort, ressusciter quelqu'un, c'est compliqué. Donc, au niveau atmosphère, elles ne peuvent pas être là. C'est un peu comme Marie-Madeleine, le dimanche matin de la résurrection. Elle vient au cimetière pour voir le corps de Jésus et l'embaumer, rajouter des aromates, et elle ne le reconnaît pas ressuscité quand il lui apparaît. Pourquoi ? Parce qu'elle vient chercher un mort. Elle ne pourrait pas le voir vivant, puisqu'elle ne le cherche pas parmi les vivants. C'est un peu la même dynamique dans cette guérison. Dieu guérit dans l'intimité. Et ça prend parfois du temps et de la souffrance. Pourquoi ? Parce que, je vais le dire comme ça, hein, parce que je pense que la louange, le merci à Dieu est plus beau quand il se dit dans les ténèbres. C'est tellement facile de dire de Dieu que t'es merveilleux quand tout va bien. Mais quand rien ne va, être capable de dire « je te remercie parce que tu es là », ça veut dire que ce que vous vivez, quelque part, n'est déjà plus de cette terre. Dernier petit détail, je termine par ça. Dans la guérison de notre sourd et muet. Le texte, et je lis le verset 34, le texte dit « Puis, donc Jésus, leva les yeux au ciel, il soupira. » Le grec, c'est plutôt « gémir ». Jésus gémit au moment de guérir le gars. Il lui dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Le verbe « gémir » est très rare dans le Nouveau Testament. Il est très rare. Mais il se trouve dans des passages très importants, et en particulier dans, pour ceux qui ont un peu de culture biblique, dans l'Épître aux Romains et la première lettre à l'Église de Corinthe. Dans ces passages, Paul, c'est l'apôtre Paul qui les écrit, parle du gémissement des croyants et de la création tout entière dans l'attente du retour de Jésus. Mais il emploie aussi ce terme gémir, Paul, quand il parle de l'Esprit Saint en nous qui intercède quand on prie. Parfois, vous n'avez rien à dire à Dieu, parce que c'est trop compliqué, c'est trop dur, vous souffrez trop, voilà, la vie est trop compliquée, vous ne savez pas quoi dire, vous n'êtes pas bien. Paul dit dans ces moments-là, c'est l'Esprit Saint qui prie. Il vaut mieux, parce que vous ne savez pas quoi dire. Les mots ne suffisent plus à exprimer ce que vous ressentez. Donc, ces textes me semblent s'accorder ici de façon saisissante. Autrement dit, le gémissement de Jésus, je pense, hein, doit être compris comme le cri de son être et de son esprit en face de la puissance du mal et du prix dont il va devoir payer la victoire sur le mal. La maladie est un des stigmates, des symptômes que ce monde va mal. La maladie physique est une conséquence de la séparation de l'homme avec Dieu. Jésus gémit en guérissant cet homme parce qu'il est confronté à un des stigmates du mal qui règne dans le monde. Et lui sait très bien, il sait très bien ce que ça va lui coûter à lui de mettre fin un jour à ce mal. Ça va lui coûter la croix. Le gémissement de Jésus devant cet homme captif de sa maladie, que le mal tient lié et qui représente tout un peuple et peut-être tout un monde, est à la fois l'écho de la douleur des hommes et celui de la douleur de Dieu. Ne croyez surtout pas, j'ai déjà dit 100 fois ça, mais je le rappelle, ne croyez surtout pas que Dieu ne souffre pas de ce dont vous souffrez. Le Dieu du christianisme, c'est un Dieu qui souffre. Dieu souffre avec nous et à cause de nous. Et la découverte profonde de cette réalité est le début d'un chemin de vie, un chemin dont le doute devient totalement absent, puisque ce chemin est ouvert par l'éblouissement de notre âme face à l'amour de Dieu pour nous, exprimé par sa souffrance, justement. Vous imaginez, certains d'entre nous sont parents, vous feriez crucifier, même pour votre propre enfant, vous iriez mourir sur une croix. Surtout que parfois les enfants, ils nous pompent. À certains moments, quand ils sont bien lourds, là, oh, je les aime tellement, je vais aller mourir sur une croix. On les mettrait bien, eux. Voilà. Si on en a une sous la main, si on est bricoleur. Donc en conclusion, nous pouvons tous avoir une opinion, bien entendu, sur les textes et les guérisons relatées dans l'Évangile. Hein. Et voilà, suivant votre sensibilité théologique, ça peut aller de Dieu guérit tout le monde tout le temps, ok, ça ne me semble pas la réalité, mais soit. Ou ah ben, il guérit plus personne du tout. Ou alors, si vous croyez pas du tout en Dieu, qu'est-ce que c'est que ça pour des bêtises, quoi. Mais une chose demeure quand même. Toutes ces guérisons sont l'annonce du temps messianique qui vient, de ce royaume qui va venir, où tous les sourds entendront, où tous les aveugles verront. Et un temps, et c'est l'Apocalypse qui nous dit ça, un temps où Dieu effacera toutes les larmes de nos yeux. Alors je ne sais pas vous, mais moi, cette promesse-là, j'ai envie vraiment de bâtir ma vie dessus. Enfin, ça fait quelques années que ça dure hein, quand même déjà, au niveau bâti. Mais je ne suis pas doué pour la construction, mais là, je peux vous garantir que sur cette promesse-là, moi, je crois vraiment que Jésus revient. Hein, parce qu'il l'a dit. C'est un acte de théologie, c'est vrai que c'est un point de théologie, mais ça devrait surtout l'assise et la fondation de nos existences. Il revient. Autre petite question, et je termine par ça. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce que je fais de ma vie en attendant? Parce qu'à un moment, il va être là, un coucou, c'est moi. Rappelez-vous ce qu'il disait. Hein, je ne vous garantis pas que je ne reviendrai pas la nuit. Vous ne savez pas quand je reviendrai. Soyez éveillés, réveillés, que je ne doive pas vous secouer, que vous ne passiez pas à côté de mon retour. Il s'adresse à des croyants, hein, des gens qui sont supposés l'attendre en faisant quelque chose de leur vie en rapport avec son amour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.